Place Info. Bienvenue à toutes et à tous, c'est 8h30 France Info jusqu'à 9h sur France Info Radio et le canal 27 de la TNT avec Jean-Jérôme Bertolus, bonjour.
Bonjour Mathéo.
Chef du service politique de France Info, notre invité ce matin est délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ils étaient 280 000 il y a un an dans les rues, sur les ronds-points, les gilets jaunes. Hier, ils étaient 10 fois moins, 28 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est peu.
Oui, ce n'est pas un chiffre qui est très important. Ceci dit, moi, je ne minimise pas la colère qui peut subsister. Ce qui m'a plus préoccupé hier, c'est que bien souvent, on voit que les hommes en noir ont un peu remplacé les hommes en jaune des ronds-points.
Les hommes en noir étant les casseurs?
Oui. À Paris, c'était très clair. Ce qui s'est passé sur la place d'Italie, ce qui s'est passé à différents points, c'était pas des revendications sociales, c'était une volonté de casser, d'abîmer, de mettre le régime par terre d'une certaine façon, c'est ce qui remontait bien souvent. Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup marqué il y a un an, c'est que sur les ronds-points, il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de femmes qui disaient leurs difficultés dans leur famille de boucler les fins de mois.
Certaines étaient d'ailleurs des figures du mouvement.
Oui, bien entendu. Je crois qu'on a essayé d'apporter beaucoup de réponses depuis un an, beaucoup de réponses sur le pouvoir d'achat, sur l'accompagnement des femmes célibataires, notamment. Je pense au dernier budget que nous avons voté à l'Assemblée. On essaie de prendre en compte des choses pour que le versement, par exemple, des pensions alimentaires, c'était une revendication centrale du mouvement des Gilets jaunes, soit mieux prise en compte.
Justement.
17 milliards d'euros.
Justement, Stanislas Guérini, vos amis du Modem, mais les centristes également de l'UDI, à l'Assemblée, au Sénat, jugent que le compte n'y est pas, que le travail ne paye pas assez. Ils demandent un Grenelle pour qu'au moins la fiche de paye augmente. C'est dans une tribune publiée par Le Parisien.
Pardon, j'ai pas eu exactement la même interprétation de la tribune. Je n'ai pas lu que le compte n'y était pas. Je crois que nous avons fait un effort.
Les Français souffrent
jamais,
toujours.
Jamais, sous la Ve République, il n'y avait eu autant de baisses d'impôts ou de suppressions de taxes que ce que nous avons fait depuis un an. 17 milliards d'euros, je mentionnais à l'instant.
C'est une mauvaise idée, un Grenelle avant le 5
non,
décembre.
Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne crois pas
non,
que
mais
nous allons organiser un Grenelle avant le 5 décembre.
Je
partage une part du constat. C'est que beaucoup a été fait, mais que nous avons encore un sujet devant les yeux, qui est celui de l'unité de la nation, d'unité sociale. Donc tout ce qui pourra contribuer à renforcer cette unité, à ce sentiment de faire nation, va dans le bon sens d'une certaine façon. Mais n'oublions pas que depuis un an, nous avons fait le grand débat, qui a été un moment inédit, un moment de concertation avec les Français, aussi avec les organisations syndicales, pour trouver des solutions. La vérité, c'est qu'il reste encore des grandes difficultés. Catégorie de Français par catégorie de Français. On le voit à l'hôpital, on le voit encore récemment chez les jeunes, à l'université.
On va y venir.
Eh bien,
ouais.
C'est à cela que nous devons maintenant apporter des solutions encore plus concrètes. Ce quinquennat, ça ne doit pas être que le quinquennat des droits votés, ça doit être le quinquennat des droits appliqués. Il y a beaucoup de problèmes qui ressortent dessous le tapis, ils avaient été mis sous le tapis depuis trop longtemps.
Oui.
Eh bien, nous allons continuer notre action réformatrice pour apporter des solutions.
D'un mot, justement, Stanislas Guérini, jeudi, à Épernay, le président de la République s'est engagé, personnellement, il a dit dans son discours, ça n'est pas que des mots, c'est mon engagement sur l'hôpital. Le Premier ministre doit annoncer des mesures fortes, selon, encore une fois, les mots du chef de l'État, mercredi prochain. Vous ne pouvez pas décevoir, il va véritablement y avoir un réel effort budgétaire pour l'hôpital annoncé mercredi.
Oui, cela me semble nécessaire. Chacun sait que la situation de l'hôpital est extrêmement difficile. Là encore, depuis le début du quinquennat, nous avons opéré des virages importants, récemment encore, pour les urgences, un plan de 700 millions d'euros pour
oui, mais manifestement, qui
aider
n'était
la
pas
situation.
Suffisant. Donc
les
ça
urgences.
Veut dire qu'il y aura un
mais
réel effort budgétaire,
encore
3 milliards, 4
accélérer
milliards.
Les choses. Je ne suis pas capable de vous donner le chiffre, ça sera annoncé par la ministre de la Santé et des Solidarités cette semaine. Je
et
crois
par le
pouvoir
ministre.
Dire qu'il y a un engagement du Premier ministre, du Président de la République, pour améliorer la situation de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on voit d'un mot? Il y a des problèmes structurels. Nous essayons d'y apporter des réponses. C'était le plan Ma Santé 2022 pour justement repenser l'organisation systémique du système de santé. Et c'est nécessaire. Et les acteurs On saluait d'ailleurs la direction qui était prise. Mais l'on voit aussi qu'il y a des situations d'urgence dans l'hôpital et nous devons aussi y apporter des réponses.
Alors on parlait du chef de l'État, il doit s'adresser la semaine prochaine à la jeunesse hein, lors d'un déplacement dans la Somme. Il y a quelques jours, un étudiant s'est immolé devant le Crous de Lyon. Écoutez ce qu'en disait la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un acte politique. On comprend bien qu'il y a des revendications, il y a des difficultés. Ce que je trouve, moi, dangereux, c'est que dans notre démocratie, certains groupuscules, certains militants politiques se servent de cet événement, le récupèrent, et on voit bien commettre des actes qui ne sont pas, au fond, ce que doit être une démocratie.
Stanislas Guérini, cet étudiant a laissé une lettre où il évoque sa situation de grande précarité. C'était pas un acte politique. Est-ce qu'on peut continuer à dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence à dire ça?
Pardon, mais je trouve que le débat en lui-même porte une forme d'indécence. Ce jeune homme est entre la vie et la mort. Je crois qu'on doit d'abord, avant tout, penser à lui, à ses proches. Il y avait certainement un message, puisque vous le dites vous-même, il a laissé une lettre. Mais là où il y a une part d'indécence, c'est dans la récupération politique de ce débat. Je crois que la jeunesse de ce pays ne doit pas se laisser récupérer, se laisser embrigader politiquement sur un acte aussi terrible que celui-là.
Mais est-ce que ça déplace, oui, il y a pas, des le difficultés. Est-ce que ça déplace pas le débat sur la précarité, justement, des étudiants comme lui?
Bien entendu qu'il y a des difficultés. Bien entendu que la jeunesse étudiante mérite d'avoir toutes les chances. L'ensemble de notre politique, c'est de justement permettre un projet d'émancipation par le travail, par le savoir, par l'éducation. C'est une priorité politique depuis le début du quinquennat. Nous avons d'ailleurs rendu les choses plus faciles pour les étudiants. Jamais la rentrée étudiante n'a été aussi peu chère. Nous avons supprimé l'accès à la mutuelle étudiante.
Nous avons augmenté les moyens pour les bourses. La revalorisation des bourses étudiantes. Vous êtes prêt à faire ce geste?
D'abord, nous avons déjà décidé, dans ce budget que nous venons de voter, de dédier 50 millions d'euros supplémentaires à l'augmentation des bourses étudiantes. Et donc, nous avançons avec les étudiants. Il y a un chantier qui est très important, qui est sur la table, qui est celui du revenu universel d'activité, pour permettre justement que les aides auxquelles ont droit les Français, les étudiants comme les autres, soient plus facilement accessibles. Eh bien, je suis favorable, avec d'autres, la revendication est évidemment portée par les ministres en charge des étudiants, Frédéric Vidal, de pouvoir associer la jeunesse à ce revenu universel d'activité. C'est très important,
en tout cas,
et c'est comme ça que nous devons avancer avec eux.
Ce n'est pas la seule partie de population, les étudiants, qui a des revendications en ce moment et qui appelle notamment à une grève. On va y revenir. Il y a pas mal de contestations sociales dans le pays. On va y revenir avec vous. Restez évidemment avec nous. Stanislas Guérini sur France Info. On retrouve à 9h-20 Yasmina Adila pour l'info.
Des foyers encore privés d'électricité en Val-du-Rhône, 79 500 sans courant depuis jeudi. Et les chutes de neige tombées sur la région, difficultés concentrées sur la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. En revanche, légère amélioration sur les TER entre Vennes et Valence. 29 stations de métro, 5 de RER fermées ce matin à Paris. Suite du mouvement des Gilets jaunes, de nouveaux appels à manifester aujourd'hui en ce week-end du premier anniversaire du mouvement, marqué hier par des violences à Paris, notamment en place d'Italie. Sur France Info, le maire Jérôme Coumet dit avoir pourtant prévenu la préfecture de ne pas en faire un point de départ d'une manifestation. Hommage en Alsace à Sylvia, cette femme de 40 ans tuée par son mari. Poignardée, l'homme est aujourd'hui mis en examen. Et justement, une étude sur les féminicides de l'Inspection Générale de la Justice. Elle démontre que 4 victimes sur 10 se sont signalées auprès des forces de l'ordre, des plaintes classées sans suite dans 80% des cas. La chaîne pénale n'est pas satisfaisante, reconnaît dans le journal du dimanche la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Venise, toujours sous les eaux, la nouvelle marée haute attendue. Aujourd'hui, la ville connaît depuis une semaine des inondations records.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8:30, France Info avec Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, et Jean-Jérôme Bertolus.
Étudiants, personnel hospitalier, pompiers, agents du fisc et bien sûr les salariés du secteur public et privé qui craignent pour leur retraite. Est-ce que vous craignez une convergence de tous ces foyers de contestation sociale, de tous ces mouvements sociaux vers la grève interprofessionnelle du 5 décembre ?
Non, je ne le crains pas, mais notre responsabilité, c'est de garder la porte du dialogue ouverte. C'est ce que nous faisons pour préparer cette réforme. Vous savez, je crois qu'on vient de parler des Gilets jaunes, de ce que nous venons de vivre depuis un an dans le pays. Un des grands enseignements, c'est que nous devons davantage construire les réformes avec les Français, avec ceux qui sont les principaux intéressés. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons décidé de faire pour construire cette réforme des retraites.
Comment vous définissez le climat en ce moment ? Vous voyez cette météo de gros temps social ?
Et comment ne pas le voir ? Il y a évidemment un foyer de préoccupation qui est très fort, une inquiétude pour l'avenir du pays qui est marquée. Peut-être précisément parce que nous avons décidé de nous emparer à bras-le-corps d'un certain nombre de grands sujets, de s'attaquer à un certain nombre d'injustices. Le système des retraites en est une flagrante. Eh bien, parce que nous bougeons, effectivement, les Français considèrent peut-être qu'il y a la question de l'avenir qui est posée et que cela peut susciter des inquiétudes. Eh bien, nous ne devons pas nous retrouver interdits, arrêter de réformer parce qu'il y a ces inquiétudes-là. Je crois qu'au contraire, le mandat du président de la République, le mandat de cette majorité de ce gouvernement, c'est celui de la réforme. C'est celui de devoir régler les problèmes qui avaient été, pendant tant d'années, mis sous le tapis.
Mais même si vous conservez effectivement, on va dire, ce profil ou cette posture de réforme, est-ce que vous êtes, on va dire, d'un optimisme relatif? Le Premier ministre va rencontrer tous les syndicats, toutes les organisations nationales. De son côté, Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, va rencontrer toutes les organisations syndicales de la SNCF. Est-ce que vous pensez que le mouvement du 5 décembre peut encore ne pas avoir lieu?
Non, je crois qu'il a été annoncé. On verra quelle sera son ampleur.
Mais ça va pas être une grève.
Oui, mais alors justement. Nous sommes à la fois lucides. Ouais. Totalement lucide sur la situation du pays, sur les colères et les inquiétudes, je viens de le dire, qui peuvent s'exprimer, mais résolu. Résolu à continuer la transformation
du pays. Mais vous tiendrez, vous,
la
majorité, justement.
Parce que ce qui crée la colère, ce qui crée la colère, ce n'est pas seulement l'inquiétude de l'avenir, c'est aussi les difficultés que nous vivons. Et si nous nous arrêtions de réformer, si nous laissions la situation telle qu'elle est, mais alors nous serions renvoyés violemment chez nous. C'est ça la vérité, en réalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons nous attaquer aux injustices. Je le disais à l'instant, comment est-ce qu'on peut laisser un système de retraite, puisque c'est la question que vous me posez, avec autant d'injustices, 42 systèmes différents sur la table, un système de retraite qui est injuste pour les carrières hachées, pour les femmes. Eh bien, nous devons, et c'est notre mandat, trouver des solutions, justement.
Stanislas Guérini, si cette grève du 5 décembre, comme elle s'annonce dure, elle pourrait paralyser une partie du pays, elle pourrait durer, est-ce que la majorité tiendra? Et on a vu ce matin l'appel des centristes de la majorité.
Moi, je suis certain que la majorité tiendra parce que nous avons la conviction que ce que nous faisons est juste, que les principes fondamentaux de la réforme que nous voulons proposer aux Français, d'un système universel de retraite, est un principe juste et qui sera beaucoup plus efficace demain pour adapter notre pays au 21e siècle, aux transformations du monde du travail. Et donc, parce que nous sommes convaincus de ces points-là, parce que nous avons aussi laissé la porte ouverte au dialogue, je le disais à l'instant, eh bien, nous tiendrons et nous voudrons avancer et continuer à avancer.
Pourquoi ne pas rassurer les Français en leur disant, ben, on va appliquer cette fameuse clause du grand-père, c'est-à-dire effectivement ce projet de réforme des retraites seulement pour les enfants. Futurs entrants sur le marché du travail, que ce soit aux salariés du secteur public ou aux salariés du secteur privé?
Bien, précisément, ce qui doit être rassurant pour les Français, c'est à la fois d'avoir un cadre, parce que je pense que quand on part n'importe comment dans une réforme, on ne sait plus quel est le cap, la boussole, eh bien ça, ce n'est pas rassurant. Nous avons un cadre, mais que nous l'avons toujours dit, depuis le premier jour, les modalités de transition de la réforme, comment nous allons accompagner les différentes branches professionnelles, en combien de temps nous allons le faire, eh bien ça, nous avons laissé les choses ouvertes et différentes options sur la table. Je pense que c'est la bonne méthode pour construire cette réforme, résolue sur les principes, ouvert sur la méthode de transition, et je crois que c'est comme ça qu'il faudra mener le dialogue avec les Français.
Stanislas Guérini, vous disiez difficile de ne pas constater, de ne pas voir cette tension sociale dans le pays. Est-ce en raison de ce climat justement que sur les municipales, vos ambitions semblent avoir changé? Elles semblent plus modestes. Vous avez l'objectif d'avoir 10 000 conseillers municipaux.
Depuis le premier jour, nous avons lancé la séquence des municipales au lendemain des européennes. Je me rappelle le 17 juin.
Vous êtes très actif, notamment parce que vous êtes responsable des
investitures. Bien entendu, il me semble que c'est ma responsabilité aujourd'hui.
C'est pas plus modeste. Vous récusez ce terme.
Pas varié d'un iota. Je citais la première conférence de presse que j'ai pu faire sur le sujet où j'ai indiqué l'objectif de La République en marche. Quel est-il ? multiplier le nombre d'élus locaux. On vient de parler d'un certain nombre de difficultés et de montrer la difficulté, au fond, à transformer réellement le pays, à passer de ces droits formels, ceux qu'on vote à l'Assemblée nationale, aux droits réels, ceux qui changent vraiment la vie des gens. Eh bien, les élections municipales, au cœur de ces élections, eh bien, il y a là cet enjeu.
Mais vous devez
plus
les multiplier,
locaux,
vous devez les multiplier
réformistes,
d'autant plus que vous en avez
plus
très
de
peu.
Capacité à agir. Mais oui, bien entendu,
parce que vous
avez raison
voir,
de le rappeler. Nous sommes une jeune formation politique. Aujourd'hui, il y a environ 2000 élus locaux.
Donc vous ne voyez
de
pas de modestie dans cet objectif de 10 000 conseillers municipaux ?
Eh bien, je pense que multiplier par 5 le nombre d'élus locaux en marche, eh bien, ça sera un objectif ambitieux.
Alors, ça,
mais
c'est,
au-delà
c'est,
de ça...
C'est un chiffre que vous donnez régulièrement, Stanislas Guérini.
Oui, bien entendu. C'est la preuve que je n'ai pas varié.
Oui, mais vous savez bien qu'effectivement, Matteo Maestrachi fait référence à tous vos amis qui disent « Oh là là, le général de Gaulle, quand il est arrivé, eh bien, s'est planté au municipal de 1959, donc ça peut nous arriver. » Moi, j'aimerais que vous nous disiez ce matin, au-delà de ces 10 000, combien vous comptez conquérir sous la bannière de La République En Marche, de villes de plus de 9 000 habitants.
Bien, je ne vous répondrai pas, parce que je n'ai pas fixé d'objectif en la matière. Je n'ai jamais considéré devoir prendre un étendard politique, une formation particulière, pour essayer d'aller planter des drapeaux. Ce n'est pas mon approche de ces élections municipales. Mon approche de ces élections municipales, je l'ai dit, c'est multiplier le nombre d'élus locaux pour En Marche et de renforcer la majorité présidentielle.
Mais précisément.
La majorité des progressistes dans ce pays.
On a bien compris.
C'est comme ça que j'aborde ces élections.
Stanislas
mais le contraire serait
précisément
une folie. Bien sûr, nous voulons avoir demain des maires en marche.
Comment est-ce qu'on va comprendre les élections municipales et les Français vont comprendre les élections municipales au soir du premier tour? Par exemple, Jean-Luc Moudin, à Toulouse, est le candidat à son propre renouvellement. Il est en carte TLR. Vous allez apporter votre soutien à Christian Estrosi. Il est en carte TLR et il y en a plein d'autres. Alors effectivement, dans ce cas-là, ça va être compliqué de savoir si vous avez gagné ou perdu.
D'abord, vous savez, je crois que les Français, ils raisonnent de façon un petit peu plus simple et moins partisane que ce que vous venez d'énoncer.
De fait, c'est compliqué.
Ils regardent dans leur ville et ils décident si la personne qui se présente au suffrage, ça sera une ou un bon maire pour leur ville. Je crois que c'est à peu près comme ça que les Français...
Oui, mais en soutenant des gens qui ne sont pas République En Marche, vous risquez de gagner plus, forcément.
Je vais vous répondre, évidemment. Moi, je veux consolider la majorité présidentielle. Je veux avoir plus d'élus demain progressistes dans le pays parce que je n'ai jamais considéré que les élections, c'était une fin en soi. J'ai toujours considéré que les élections, c'était le démarrage de quelque chose pour pouvoir mieux agir. Et donc, si demain... y compris des maires qui ne sont pas de notre formation politique. Mais d'ailleurs, je vais vous citer un chiffre. En 2014,
s'il vous plaît.
On dit que la droite était gagnante des élections municipales.
60% des villes de plus de 9 000 habitants.
L'UMP, sous sa bannière, comme vous dites, avait conquis à peu près 7%, un peu moins de 7% des villes. Vous voyez, c'est intéressant de regarder
ça. On va rester dans les chiffres.
La question, c'est comment on élargit la majorité présidentielle et comment demain, on agit mieux et on continue à transformer.
On reste dans les chiffres puisqu'il est 8h50. On retrouve l'info avec Yasmina Adila.
Près de 80 000 foyers privés d'électricité en vallée du Rhône, notamment dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère, suite de la neige tombée sur la région jeudi. Les Landes et le Gers, toujours en vigilance orange inondation pour crue. Alerte levée, en revanche, pour les Pyrénées-Atlantiques. Suite du mouvement des Gilets jaunes, 29 stations de métro et 5 RER fermées ce matin à Paris. Week-end anniversaire du mouvement, marqué par des violences dans la capitale à Bastille, dans le quartier des Halles, mais aussi Place d'Italie. En faire un lieu de rassemblement n'était pas une bonne idée, réagit sur France Info le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, qui dit avoir alerté la préfecture. Plusieurs milliers de manifestants au Venezuela contre le président Maduro. Rassemblement à l'appel de l'opposant Juan Guaido. Albanie-France, dernier match de qualification des Bleus pour l'Euro. Rencontre à suivre sur France Info dès 20h45. Les Français doivent gagner pour s'assurer la première place de leur groupe et avoir un tirage au sort favorable.
France Info. Et tout
le
est plus 8h30 clair.
France Info avec Stanislas Guérini et Jean-Jérôme Bertolus.
Stanislas Guérini, pour les municipales, vous devez encore régler le cas de Paris, Lyon, Marseille, les trois principales villes de France. À Paris, France Info a révélé un sondage qui a été commandé par l'association de soutien à Benjamin Griveaux qui montre que Cédric Villani décroche, en quelque sorte. Ce matin, vous lui adressez un message, vous lui dites maintenant, il est temps de rejoindre Benjamin Griveaux.
Moi, j'adresse un message à tous ceux qui pensent qu'il faut une alternative à Paris. Et ce sondage, il montre une autre chose, c'est que la maire sortante est à un niveau extrêmement faible.
Mais
je connais peu de grandes villes de France où le maire ou la maire sortante est à un niveau aussi faible, à si peu d'adhésion. Ça doit vouloir dire quelque chose sur la façon dont aujourd'hui, cette belle ville qu'est Paris est administrée et mal administrée. Et donc je crois qu'il faut une alternative. Il faut que les forces progressistes, celles qui se réclament de la majorité présidentielle, puissent se rassembler. Nous, nous avons un bon candidat. Ce sondage, il montre une autre chose, c'est que Benjamin Griveaux, c'est celui qui est le mieux à même de porter cette alternative à la maire Anne Hidalgo. Eh bien, il faut que nous nous rassemblions derrière le candidat de La République En Marche, Benjamin.
Mais, sauf que là, vous en avez deux, des candidats. Justement, c'est la question.
Ah non, mais là aussi, pardon, mais j'ai toujours été aussi clair. Nous avons un candidat de La République En Marche, qui est Benjamin Griveaux, qui fait une bonne campagne.
D'accord, donc Cédric Villani n'est pas sous la bannière La République En Marche.
Je crois pas qu'il se revendique.
Et c'est 12% d'intention de vote.
Mais je pense qu'il y a différents candidats, Cédric Villani, Pierre-Yves Bournazel, Gaspard Ganzer, qui ne sont proche ou pas loin de la majorité présidentielle. Bien, moi, je crois que la raison et les intentions de vote le montrent, même s'il faut être très prudent avec les sondages, la raison, c'est de se rassembler, de rassembler les forces progressistes à Paris. Elles existent. Il y a une aspiration au changement pour pouvoir mener cette bataille.
Stanislas Guérini, deux questions encore très vite sur les municipales. À Lyon, vous demandez également le rassemblement. Vous dites aux députés de La République En Marche qui soutiennent David Kimmenfeld, le concurrent de Gérard Collomb pour la métropole, de rentrer dans le rang.
Je dis que nous avons fait un choix pour la métropole. Gérard Collomb sera le candidat de La République En Marche pour la métropole de Lyon. Les choses sont ouvertes, nous devons encore faire notre choix pour mener la bataille pour la ville. Et ce que je dis là aussi, c'est que notre famille politique doit se rassembler. Il y a une sorte de gâchis à voir deux personnalités de talent, David Kimmelfeld et
Gérard
Collomb.
Donc avec
Collomb,
vos mots, vous leur demandez de
divisé.
Rentrer dans le rang.
Oui, là aussi, il faut évidemment, évidemment.
Marseille.
Vous savez, les victoires, on les construit sur le rassemblement.
Marseille, vous n'avez pas de candidat. Est-ce que Samia Ghali, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, ex-PS, pourrait être une bonne candidate pour La République En Marche?
Je ne sais pas le dire, nous n'avons pas encore choisi. Notre intention à Marseille, c'est de rassembler extrêmement largement. Nous avons des candidatures issues des rangs de La République En Marche. Eh bien, nous regardons de façon privilégiée vers ces personnalités-là. Mais ce qui est certain, c'est que à Marseille, nous devons bâtir un arc progressiste pour pouvoir, là aussi, porter une alternative, un changement de système à Marseille. Je crois que cette ville en a besoin.
La République En Marche, qui sera présente au Congrès des maires la semaine prochaine, est-ce que vous estimez ou espérez que les relations avec les maires se sont apaisées depuis l'année dernière ?
Je le pense, et je crois que nous avons fait beaucoup pour que ça soit le cas, à la fois en matière de fiscalité locale, nous avons mis aussi fin à ce qui était la tradition d'une certaine façon de l'ancien quinquennat, des baisses de dotation systématiques, budget après budget. Nous sommes en train d'examiner un projet de loi pour faciliter justement l'engagement des maires, leur donner plus de liberté. Nous engageons une réforme pour avoir un grand mouvement de décentralisation. C'est Jacqueline Gourault qui portera ce projet de loi d'ici quelques semaines. Bien, vous voyez, nous faisons les choses parce que nous avons peut-être, à travers justement le grand débat, pris conscience de l'obligation ardente de faire là aussi avec les acteurs de terrain qui sont nos maires, qui sont si appréciés des Français, parce que la capacité à faire nation, c'est certainement à travers les territoires qu'elle viendra aussi.
Ce matin, dans le JDD, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, fait son mea culpa, en quelque sorte. Oui, il y a un problème dans la chaîne de la justice par rapport aux violences conjugales. On a envie de dire, enfin, effectivement, c'est reconnu qu'il y a un problème.
Oui, je pense que c'est, vous savez, aussi inhérent à notre méthode d'action que de nommer les problèmes, que de dire la vérité, y compris sur ce qui dysfonctionne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué avec Marlène Schiappa un Grenelle des violences conjugales. Il rendra ses conclusions à la fin du mois de novembre, je crois le 25 novembre, justement pour pouvoir agir. Il n'y a peut-être pas une action en soi, un coup de baguette magique, comme bien souvent, qui permet de régler ces difficultés. C'est une somme de mesures, c'est ce que pointe aussi la garde des Sceaux.
Elle parle
crois,
de défaillance,
dans son
elle parle
interview.
De défaillance, le terme est fort.
Oui, je pense qu'elle a raison d'appliquer un regard très lucide sur la question. Les chiffres donnent froid dans le dos systématiquement quand on regarde ces questions-là. Je crois que depuis le début de l'année, c'est 88 féminicides qui 100, sont...
136 depuis le début de l'année, les 88, c'est ceux qui sont analysés par le rapport.
Pardon, vous avez bien raison, vous avez bien raison. C'est encore plus glaçant. Et donc il faut évidemment agir, et c'est ce que cette majorité a décidé de faire.
Mais il n'y a pas, par rapport à ces défaillances, excusez-moi, c'est peu, mais il n'y a pas de sanctions à prendre, c'est-à-dire qu'on constate des défaillances dans la chaîne de la justice. On l'a constaté d'ailleurs, le président de la République lui-même l'avait constaté dans un centre d'appel dans lequel il s'était rendu, et finalement... Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de sanctions.
D'abord, nous rendrons des conclusions. C'est précisément la mission de ce Grenelle de violence conjugale que de le faire, et les personnes qui sont en charge de ce dossier-là le feront à la fin du mois. Mais de façon générale, je crois que c'est bien plus souvent une question de formation que de sanctions, d'accompagnement des acteurs à prendre en compte des situations qui sont ô combien douloureuse, ô combien spécifique, et vous citez cet exemple dans un centre d'appel, je crois que la question, c'est la question plus de la formation que de
la sanction. Il y a eu une enquête dans ce centre d'appel ou pas ?
Je ne sais pas le dire.
Des propositions, en tout cas, seront formulées effectivement le 25 novembre à l'issue de ce Grenelle sur les violences conjugales. Merci beaucoup, merci Jean-Jérôme,
merci, merci à vous.
Stanislas Guérini. On vous retrouve demain, la doublette d'Élie Fauvel sur France Info pour le 8h30.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.